En août 1952, Marcel Griaul, hein, donc le fameux ethnologue africaniste français, et son informateur privilégié Dogon Coghem se retrouvent à Paris. Griaul a invité Coghem pour travailler à Paris. Et ils visitent pendant 2 jours ensemble la Grande Galerie de Zoologie du Muséum National d'Histoire Naturelle. Puis le 3e jour se rendent au Parc Zoologique de Vincennes. Coghem cherche à reconnaître dans les animaux exposés ceux qui sont présents au pays Dogon. Et Griaul note sur son carnet les noms Dogon et scientifiques des animaux, ainsi que quelques renseignements ethnographiques. Il s'agit alors d'intégrer l'ensemble des animaux et plus largement des objets de la nature présents au pays Dogon dans des tableaux classificatoires. Et c'est un exemple de l'ethnozoologie en train de se faire ici en contexte parisien. Donc, entre l'apparition du terme d'ethnozoologie aux États-Unis en 1899 et l'institutionnalisation de cette nouvelle discipline en France dans les années 60, de nombreux ethnologues africanistes, à commencer donc par Griaul, s'intéressent au savoir zoologique des populations étudiées sur le terrain. Ces ethnologues bricolent et inventent ainsi une ethnozoologie, suivant en cela les instructions de Marcel Mauss, qui déclarait lors de l'inauguration de l'Institut d'ethnologie en 1926, « Il faut faire de l'ethnobotanique et de l'ethnozoologie. Les indigènes sont souvent plus forts que nous pour ces choses. » Le rattachement du musée d'ethnographie du Trocadéro au Muséum national d'histoire naturelle en 1928, puis le développement à partir de 1938 de l'Institut français d'Afrique noire, IFAN, à Dakar et sous la direction de Théodore Monod, explique également l'intérêt des ethnologues africanistes pour les savoirs naturalistes indigènes. Ces événements permettent de mieux comprendre pourquoi les ethnologues sur le terrain rassemblent des collections d'animaux morts, mais aussi vivants, aux côtés de collections plus classiques d'objets ethnographiques. L'invention de l'ethnozoologie témoigne en effet, selon moi, de la rencontre entre un paradigme de la collecte, pour reprendre les travaux de Benoît de l'Étoile ou de Vincent Deban, et un paradigme de la chasse. Dans le développement de l'ethnographie de terrain en Afrique à la fin de la période coloniale. À la fin de cette période coloniale, en effet, le choix que certains ethnologues font de partir en Afrique ne saurait trouver d'explication unique, ni simplement institutionnelle ou circonstancielle, mais dans le faisceau des raisons possibles. La fascination pour un continent réputé pour sa faune sauvage joue sans doute un rôle. Enfant, Griaul a été marqué par les récits de son grand frère, militaire en poste en Afrique, qui ramène à la maison des animaux naturalisés, mais aussi vivants, et notamment 3 singes. Henri Lotte a insisté à plusieurs reprises sur son attachement enfantin pour un crocodile nommé Crocro, offert par son beau-frère. Plus tard, Georges Balandier a expliqué à quel point la photographie d'un gorille abattu par un chasseur, qu'un camarade de classe lui a montré, a pu jouer un rôle dans sa vocation. Alors, bien sûr, il reste difficile d'évaluer le rôle de ces souvenirs d'enfance dans l'expérience de terrain de ces ethnologues et de leurs collègues, mais on constate du moins que plusieurs d'entre eux, une fois sur le terrain, s'entourent d'animaux domestiques ou apprivoisés, qui servent d'auxiliaires de voyage ou de compagnons de solitude. Lors de sa première enquête ethnographique en Éthiopie, Griaul s'attache ainsi à une guenon qu'il appelle Bankou. C'est également un singe nommé Boubou qui accompagne Lot lors de sa première mission au Sahara. Et lorsque le singe décède, Lot l'enterre respectueusement. Je fais alors ce que font les vieilles dames de nos pays pour leurs chiens-chiens. J'enterre Boubou dans le désert et sur le monticule funéraire, je place une inscription indiquant « Sigi Boubou, mon petit compagnon d'aventure ». Lors de la mission Dakar-Djibouti, c'est le chien Potamo qui accompagne Griaul et son équipe. Marcel Larget, qui fait partie de la mission Dakar-Djibouti, adopte pour sa part un chat, tandis que Michel Léris s'attache à toute une série d'animaux sauvages collectés par la mission. Et lors de la mission Sahara-Cameroun, quelques années plus tard, c'est également un chien que Jean-Paul Leboeuf achète pour lui tenir compagnie après le départ de Griaul. De même, après la guerre, par exemple, en mission chez les Konyagi de Guinée, Monique de l'Étrange s'entoure de plusieurs gazelles qui se mêlent aux collections d'objets qu'elle constitue. De la même façon, les animaux dont s'entourent les colons ou les missionnaires qui vivent sur place font eux aussi l'objet d'un intérêt attendri, voire d'un investissement affectif de la part des ethnologues. Par exemple, lors de la 3e mission Griaul, en 1935, Denise Paulme écrit à André Scheffner: Les Mackayney ont une petite biche dont je ne peux oublier le regard, yeux énormes et si doux. Plus généralement, ce spectacle offert par les bêtes est recherché par les ethnologues. Par exemple, lors de la mission Dakar-Djibouti, plusieurs films et photographies d'animaux sont réalisés. On photographie des éléphants, des hippopotames, des oiseaux, etc. Mais les indices même de la présence de ces animaux sont pris en photo par Griaul et son équipe, fumés et laissés, empreintes, etc. Lors de ces missions suivantes, Griaul se passionne pour la photographie aérienne et il écrit d'instinct, là où il n'y a pas d'hommes, nous cherchons les animaux. Et il précise plus loin que les grandes antilopes sont les belles victimes du curieux, celles qui ne peuvent rien d'autre qu'attendre d'avoir été savourées, intégrées dans les mémoires cataloguées. Alors l'attention portée à l'environnement des populations étudiées apparaît comme le versant scientifique de l'expérience que font les ethnologues d'une immersion dans un paysage considéré comme naturel et sauvage. Jacques Walter, un apprenti ethnologue, note « bord du Niger à Comoguel. Dans la paix du soir, les hommes se baignent et les crocodiles indifférents les côtoient. Hommes et bêtes réunis comme au premier temps de l'humanité. » Lieu commun de la littérature coloniale, cette idée d'une harmonie primordiale entre les populations africaines et la faune sauvage se retrouve également dans les témoignages d'ethnologues confirmés. Là encore, par exemple, Griol, qui parle d'une liaison plus étroite entre l'homme et l'animal, d'une intimité plus grande qu'on ne l'observe dans nos pays, par exemple. La plupart des ethnologues de l'époque sont, par ailleurs, des chasseurs occasionnels, voire des chasseurs acharnés. Plusieurs membres de la mission Dakar Djibouti, à commencer encore une fois par Griol, chassent tout au long du parcours de la mission. En 1938-1939, c'est Jean Lebaudy, un aristocrate passionné de safari et conseiller pour la chasse au ministère des colonies, qui finance la 5e mission Griol. Et la belle-sœur de Lebaudy, la comtesse Solange de Ganay, comme lui passionnée par la chasse, effectue alors son premier terrain en tant qu'ethnologue. En 1938-1939, je suis retourné avec la mission Lebaudy-Griol dans la boucle du Niger, puis au Tchad, dans les régions déjà parcourues en 1931, et jusqu'au lac Kiro. J'ai suivi à nouveau les pistes où je chassais le buffle, mais cette fois, au lieu d'une carabine, j'étais armé d'un crayon et d'un bloc-notes pour une chasse aux documents sans merci, tout aussi sportive et encore plus passionnante que l'autre. Alors ce parcours, certes atypique de la comtesse Solange de Ganay, témoigne cependant parfaitement des affinités entre pratiques cynégétiques et enquêtes ethnographiques entre le terrain de chasse et celui de l'ethnologue à l'époque. Par exemple, à la fin des années 40, c'est Jean Rouge qui s'ennuie sur le terrain et qui accompagne ses informateurs à la chasse aux gazelles. À la même époque, l'ethnologue Bohumil Olas, qui vient d'être recruté à l'IFAN, profite de ses enquêtes ethnographiques pour chasser, et parfois frénétiquement, à la fin de l'été 52. Par exemple, il abat 3 éléphants en 3 semaines et se fait photographier à plusieurs reprises auprès de leurs cadavres avant de prélever leur défense. Et régulièrement, il va abattre comme ça des éléphants en Côte d'Ivoire. Plus que tout autre, peut-être, Lott, sans doute parce qu'il fut naturaliste avant d'être ethnologue, entretient avec la chasse un rapport ambivalent. C'est pour lui à la fois un plaisir sportif qui le conduit à publier un véritable récit de chasse sous le titre « Le Niger en kayak » en 1946. C'est aussi un objet d'enquête ethnographique auquel il consacre un ouvrage approfondi quelques années plus tard, « La chasse chez les Touaregs » en 1951. Et enfin, une invitation au tourisme cynégétique puisqu'il participe à la rédaction d'un guide de la chasse en Afrique en 1954. Pour les ethnologues de l'époque, la chasse ne constitue en effet pas seulement un moyen de tuer le temps ou une passion ambivalente, elle est aussi l'un des chapitres obligés des monographies qu'ils rédigent, et ça j'aurais pu citer de nombreux exemples. Mais cette pratique assez généralisée de la chasse a pour particularité d'être généralement commune aux ethnologues et aux indigènes qu'ils observent, de telle sorte qu'à l'époque, la chasse est souvent considérée comme un témoignage d'affinité entre population occidentale et population dite alors primitive, à rebours donc de tout évolutionnisme. Reprenant une expression de Lévi Brull, le vétérinaire Albert Janin, auteur d'un guide pour la chasse en Afrique, estimait par exemple qu'il y a dans tout chasseur un fond indéracinable de mentalité primitive. Et cette communauté des pratiques, sinon des mentalités, explique le passage de la chasse sportive à la collecte scientifique chez les ethnologues autour de la notion de cueillette animale. Mauss insistait sur ce point, hein, la collecte simple ou cueillette animale végétale s'étudiera en faisant collection de toutes les choses que recueillent les indigènes, en dressant l'inventaire complet de tout ce qu'on rassemble et de tout ce dont on se sert. Une erreur grave consiste à ne pas attacher assez d'importance à la production naturelle sur laquelle s'édifie la production humaine. Donc, pour l'étude de la production naturelle, la méthode est donc de collecter ce que collectent les populations étudiées, et en l'occurrence de chasser ce qu'elles chassent. Sur le terrain des ethnologues africanistes, la capture scientifique rejoint ainsi la chasse sportive. Mauss rencontre Tartarin. La plupart des ethnologues africanistes de l'époque partagent en effet l'idée selon laquelle les animaux ne doivent pas seulement être envisagés comme des trophées de chasse ou des spécimens zoologiques, mais aussi comme des objets ethnographiques. Et cette idée, qui reprend en fait les principes mossiens, est par exemple présente dans les instructions sommaires pour les collecteurs d'objets ethnographiques qui sont rédigées à l'occasion de la mission Dakar Djibouti. Et plus tard, dans sa méthode de l'ethnographie, Griol précise qu'il faut entendre par objet aussi bien ceux qui relèvent de l'ethnobotanique ou de l'ethnozoologie ou de la morphologie sociale que ceux qui relèvent des techniques proprement dites. Et considère, je continue de le citer, qu'un herbier ou une collection de petits mammifères, si on les rattache à des usages humains, constituent des documents de même ordre qu'une collection d'objets fabriqués ou qu'un acte notarié. Alors, cette même logique d'inventaire doit ainsi animer les collectes botaniques, les collectes zoologiques et les collectes ethnographiques pour documenter les milieux humains. Je cite de nouveau Guyol, « L'inventaire du tapis d'herbes et d'arbres assurera aux chercheurs, par contre-coup, une base solide pour établir celui des peaux, plumes, chairs, remèdes et données religieuses fournies par les animaux. » Cependant, ces pratiques de collecte zoologique des ethnologues ne se normalisent que petit à petit et mission après mission. Des hésitations concernant l'intérêt qu'il convient d'accorder aux animaux marquent ainsi la mission d'Akar Djibouti, qui est assez fondatrice de ces questions. Des centaines de fiches intitulées « Animaux », et zoologie ou ethnozoologie sont en effet produites sans qu'une distinction claire soit établie entre le contenu des unes et des autres. Et certaines fiches portent même la mention ménagerie, raturée et remplacée par celle d'ethnozoologie. Les bêtes capturées oscillent ainsi entre le statut de spécimen zoologique et celui d'objet ethnographique. Si la chasse constitue le principal moyen de se procurer des spécimens zoologiques, les ethnologues ont aussi recours à d'autres modes d'acquisition, comme en témoigne la variété des indications qui sont portées sur ces fiches d'inventaire. Par exemple, tuer au fusil. Piège à ressort égale une patte broyée égale coupée. Pris à la trappe au consulat italien, tué à coups de pierre par indigène, acheté à l'indigène et mort en cage, etc. Le rôle des auxiliaires dans ces collectes zoologiques est souvent central, on pourrait développer là-dessus. En tout cas, à chacune des missions, ils amènent au campement les bêtes qu'ils capturent ou qu'ils tuent, et certains d'entre eux sont recrutés pour naturaliser les spécimens collectés. Les plus petits spécimens sont placés dans des bocaux de formol. Et les oiseaux, les grands mammifères, sont conservés en peau avec ou sans crâne. Certains animaux sont ouverts pour prélever le contenu de l'estomac ou extraire des embryons. Et les fiches qui accompagnent ces différents spécimens zoologiques ou embryologiques comportent, outre le nom, le lieu, la date et le mode d'acquisition, d'éventuels renseignements ethnozoologiques. D'autres fiches rassemblent des données plus générales concernant les usages locaux des animaux, classés par catégorie, hein, usage, alimentation, agriculture, chasse, rites, croyances, présages, religions, etc. Les spécimens zoologiques collectés et naturalisés lors des différentes missions sur le terrain posent évidemment peu de difficultés de transport, hein, c'est à peu près les mêmes difficultés de transport que pour des objets ethnographiques, et ne provoque guère d'attachement affectif. C'est par contre le contraire avec les bêtes capturées vivantes, qui sont beaucoup moins nombreuses, mais les ethnologues ramènent aussi des spécimens vivants. Et ces spécimens font le plus souvent l'objet de soins attentifs, souvent attendris. Les ethnologues sont en effet confrontés à une forte mortalité des animaux ainsi rassemblés en ménagerie. Ces animaux meurent à cause des conditions de transport ou se dévorent entre eux, et il faut parfois soigner ou nourrir à la petite cuillère les plus faibles ou les plus jeunes. Lors de la mission Sahara-Soudan, et parmi ces animaux-là, il y en a certains qui font l'objet d'un attachement plus poussé. Lors de la mission Sahara-Soudan, une grosse tortue terrestre acquise par Griol concentre toute l'attention des membres de la mission. En mars 1935, Lifshitz écrit à Léris, resté en France, Griol a rapporté de Hugo de très beaux masques qui feront de la collection du Trocadéro, donc une série magnifique, aussi une tortue géante qui provoque un vif intérêt. Un mois plus tard, la même demande des nouvelles de la tortue à Léris, tortue que Griol a ramenée entre-temps en France. Et la tortue, que devient-elle? Et en fait, la tortue de Griol a été placée au vivarium du Jardin des Plantes. Elle est rejointe un peu après par une autre tortue collectée par Leboeuf chez les Phalies du Cameroun. Autre exemple d'attachement pour les animaux collectés, en 1937, Solange de Ganède ramène un lièvre et un écureuil palmiste du pays d'Ogon. Le lièvre est remis au muséum, mais elle garde chez elle l'écureuil palmiste nommé Grounier. Cet écureuil décède rapidement, et sa peau accompagnée de son crâne sont offerts par l'ethnologue au muséum. L'animal de compagnie finit, encore une fois, en spécimen zoologique. L'intérêt donc que la plupart des ethnologues africanistes portent aux animaux les conduit à entamer un double travail de détermination des spécimens récoltés. Ils s'adressent d'une part aux indigènes pour obtenir les noms et les classifications vernaculaires, et d'autre part à des zoologistes réputés pour intégrer les spécimens collectés dans la nomenclature linnéenne. Avant la Seconde Guerre mondiale, les spécimens récoltés sont envoyés à des zoologistes à Paris, au muséum, et sont donc déterminés par ces zoologistes. La plupart des espèces récoltées sont en fait déjà connues, mais quelques-unes sont nouvelles, et les spécimens collectés sont alors définis comme type de l'espèce ainsi découverte. Angèle, qui est assistante d'herpétologie au muséum, dédie ainsi une grenouille rapportée par l'émission d'Akar Djibouti à Griol, hein, Rana Griolei, et un lézard à Lot, Philocortus lotei. Après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les chercheurs de l'IFAN qui sont sollicités. Le travail des zoologistes permet alors de résoudre certaines contradictions dans les efforts de détermination des informateurs indigènes. En 1955, De Keyser identifie ainsi une genette collectée par Griol, ce qui permet à ce dernier de trancher « Konona Anaga est bien la même que Konona », ce qui donne raison aux gens de Sanga, « Geneta, Geneta Senegalensis ». Pour Griol, le travail sur les classifications locales prend toute son ampleur à partir des enquêtes menées avec Coghem, en particulier lors du séjour à Paris que je mentionnais en introduction. L'objectif n'est plus alors seulement d'établir une nomenclature, mais il s'agit d'intégrer l'ensemble des objets de la nature, à la fois animaux et végétaux, dans des tableaux de correspondance où figurent également des parties du corps, des institutions d'Ogon, ou encore des êtres mythiques en les classant dans un nombre limité de familles, 22 ou 24, selon les informateurs. La même logique classificatoire est développée par Leboeuf chez les Phalies, où 12 catégories permettent d'établir des équivalences entre parties du corps, membres de la famille, graines comestibles, poissons, mammifères sauvages et oiseaux. Ces analogies conduisent alors Griol et Leboeuf à articuler données ethnozoologiques et récits mythiques. Le rôle essentiel joué par le Yurugu dans le mythe de création d'Ogon explique par exemple l'importance qu'accorde Griol à la détermination scientifique de cet animal tout au long de ses recherches. Le mythe du chacal Yurugu, sorte de petit chacal au poil gris roux, est collecté en fait par Griol dès 1931, la divination par le chacal concentrant également l'attention. On a parlé hier de divination par le cochon, mais c'est un cas assez classique de divination animale aussi. La première détermination donc de ce Yurugu est établie par un zoologiste du muséum sur la base d'une photographie d'un cadavre de Yurugu prise en 1931. Après la Seconde Guerre mondiale, un spécimen est envoyé à De Keyser, donc le zoologiste de l'IFAN, qui propose une nouvelle détermination et Griol précise alors « Cet animal avait d'abord été pris pour Tos aureus au vu de photographies défectueuses. Il s'agit de Wulpes pallida, renard pâle ou renard des sables. » Cette nouvelle détermination servira de titre au Renard pâle, l'ouvrage posthume de Griol, co-signé par Germaine Dieterlin et publié donc en 1965. Dans lequel c'est la photographie de 1931 qui est de nouveau utilisée avec pour légende le Wulpes pallidus. Le mythe de création des phalies relevé cette fois-ci par Leboeuf soulève des problèmes de détermination identiques. Pour les phalies, le monde trouverait en effet son origine dans le choc primordial entre un œuf de tortue, on retrouve la tortue d'hier, et un œuf de crapaud. L'enjeu est alors pour l'ethnologue de déterminer de quelle espèce de tortue et de crapaud il s'agit. Et les informateurs de Leboeuf expliquent en outre que des différentes parties de l'œuf de tortue et des enveloppes gélatineuses de celui du crapaud sortent une terre mâle et une terre femelle, 6 animaux androgynes, la crête du coq et un arbre. Leboeuf précise à ce sujet, il est intéressant de noter que, suivant l'avis de M. Guibé, en fait le directeur du laboratoire d'herpétologie et d'ichtyologie du muséum, les membranes gélatineuses de l'œuf de crapaud ne peuvent être dénombrées qu'au microscope, instrument ignoré des phalies. Alors les enjeux de détermination sont aussi importants lorsqu'il s'agit de classer les masques zoomorphes en établissant un lien entre les récits de création des masques et les espèces qu'ils représentent. Le masque Gomtogo pose par exemple un problème à Griol. Le masque fait penser à un cervidé, mais comme il n'y a pas de cervidé en Afrique, au sud du Sahara, il faudrait admettre qu'il s'agit du souvenir d'un animal devenu légendaire, mais qui a peut-être existé autrefois dans ces régions. De la même façon, le masque Walou pose des difficultés. Lors de sa visite au parc zoologique de Vincennes, Coghem identifie un élan de Derby comme étant le Walou d'Ogon. Le lendemain, Griol téléphone à Louvel, le directeur du zoo, pour avoir un complément d'information, et il note dans son carnet « Walou serait donc l'élan de Derby. Mais d'autre part, le masque, dont les cornes sont plutôt penchées en arrière et font un très léger coude, rappellerait l'hypotrague. Il est vrai que certains masques ont deux cornes en V qui rappelleraient plutôt celles de l'élan. » Donc on voit comment les déterminations zoologiques posent des questions aux ethnologues qui s'intéressent aux masques. Entre les masques collectés, les spécimens zoologiques observés sur le terrain ou dans des parcs zoologiques et les photographies de bêtes, un bricolage des savoirs ethnozoologiques est donné à voir. Le rapport des ethnologues aux figurations zoomorphes témoigne des interférences entre le travail de détermination zoologique, les récits de chasse et les considérations mythologiques. Masques ou sculptures zoomorphes et spécimens zoologiques ne sont pas seulement à l'occasion collectés ensemble, ils partagent un même statut de spécimen et sont pris dans des logiques de classification ou dans des réseaux de correspondance similaires. Et peut-être même font-ils parfois l'objet d'une appréciation esthétique partagée. Une trentaine d'années après la visite du Muséum national d'histoire naturelle par Griol et Coghem, deux disciples de l'ethnologue, Dieterlin et Rouche, se rendent au Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren, en Belgique, où sont exposées à la fois des collections ethnographiques et zoologiques. Dieterlin s'arrête alors devant un diorama, au centre duquel se dresse un hippotrague naturalisé, et elle l'appelle « Jean, venez voir cet animal superbe et fort bien représenté. C'est le Walou, le Walou Dogon, l'antilope cheval. Alors la scène, elle figure dans le film de Luc de Heuch, Sur les traces du renard pâle. Ici, ce n'est plus un informateur Dogon qui identifie des spécimens zoologiques conservés dans un musée occidental, mais deux ethnologues africanistes qui déterminent un animal naturalisé comme étant Dogon. Mais de la même manière que Coghem rapprochait certains spécimens du muséum des animaux qu'il connaissait en confondant parfois deux espèces ressemblantes, Dieterlin et Rouge commettent une erreur. Le diorama devant lequel ils se trouvent est consacré à la savane australe, et l'hippotrague qu'ils identifient au Walou n'est pas l'antilope cheval, présent en Afrique de l'Ouest et connu des Dogons, mais l'hippotrague noir, qui ne s'observe qu'en Afrique australe. L'histoire de l'ethnozoologie n'est donc pas seulement celle conjointe des pratiques de collecte, de la circulation des spécimens et des regards croisés entre informateurs, ethnologues et zoologistes. Elle témoigne aussi des tensions entre une logique classificatoire héritée du modèle naturaliste et un certain goût pour les analogies entre l'exigence de détermination scientifique et le jeu des projections esthétiques ou affectives. L'intérêt des membres de l'école Griot et plus largement des ethnologues africanistes pour la faune africaine conjugue donc des motifs variés. Et pour eux, les animaux ont d'abord été bons à apprivoiser, à chasser ou à collecter, avant d'être bons à penser. On aurait ainsi tort de penser que l'ethnozoologie a été inventée dans des laboratoires ou des musées, ou d'imaginer que la rencontre entre l'ethnologie et la zoologie résulterait d'abord d'injonctions institutionnelles et d'une exigence conceptuelle de bidisciplinarité. Elle trouve davantage son origine dans les expériences et les pratiques de terrain. Son histoire est d'abord faite d'un certain goût des ethnologues pour la chasse, de gestes de capture ou de récits d'attachement. Je vous remercie.